En 1929, les accords du Latran mettent un terme aux relations difficiles entre État italien et pontificat depuis l'unification de l'Italie en 1870. Les accords se composent de trois volets, un traité reconnaissant l'existence de la cité du Vatican, un concordat statuant sur les relations entre le Saint-Siège et l'État italien, un important dédommagement économique. L'historien Pierre Milza revient sur les circonstances de la signature de ces accords.
Il est vrai que si les accords de Latran sont essentiellement d'ordre politique, établir un concordat entre l'Église et l'État, le statut du Saint-Siège à l'intérieur donc de Rome et de l'Italie, elles ont quand même un effet sociétal. Le problème fondamental de Mussolini en 1929, c'est d'élargir autant que possible et aussi loin que possible le consensus. Or, comment élargir le consensus dans un pays où il y a rupture entre les catholiques et l'État? Il est clair que Mussolini a besoin des catholiques et que c'est la principale raison, lui qui a été longtemps athée et qui ne brille quand même pas par ses rapports à la religion, sente le besoin d'établir des rapports avec l'État, entre l'État et le Saint-Siège. Alors, ce concordat de 1929 a quand même pour effet d'induire des obligations de la part de l'État vis-à-vis de la société, mais de la société par rapport à l'Église. Dès la signature des accords, il y a une demande non seulement du Vatican, mais de l'Église romaine, de la hiérarchie proprement romaine, pour rétablir le crucifix dans les lieux publics, pour offrir, je crois même l'évêque de Rome offre une cloche très symboliquement au gouvernement italien. Il va y avoir une pression du milieu ecclésiastique et du Vatican pour la moralisation de la société.
Le 18 février 1984, le concordat est révisé. Dès l'adoption de la Constitution italienne en 1947, les leaders politiques italiens pensent à retoucher le concordat signé en 1929. Mais la commission ne sera mise en place qu'à la fin des années 70, après les grands bouleversements de société que vont constituer pour l'Italie les référendums sur l'avortement et le divorce. Le concordat de 1984 met en place une reconnaissance mutuelle entre le Saint-Siège et l'État italien. Il réforme les dispositions économiques en instituant un impôt, l'auto per mille, versé par les Italiens à l'Église. Ce concordat encore s'accompagne d'accords entre l'Italie et la Conférence épiscopale italienne en matière d'enseignement religieux à l'école ou de tutelle des biens culturels. Pour le cardinal Achille Silvestrini, ce texte a donné un cadre pour des rapports positifs entre Église et État.
Depuis 1984, les relations ont été pratiquement sans difficulté. La révision de 1984 a créé des conditions pour les rapports entre l'État et l'Église, non seulement sans conflit, mais aussi positifs. Car comme dit l'article 1er du Concordat de 84, il y a la reconnaissance réciproque. La République italienne et le Saint-Siège réaffirment que l'État et l'Église catholique sont chacun indépendants et souverains.
Questo c'era già nella Costituzione, l'articolo 7. Ed era derivato anche dalla Gaudium Spes.
Cela apparaissait déjà dans l'article 7 de la Constitution italienne et dérivait aussi de la Constitution conciliaire Gaudium Spes qui dit que la communauté politique et l'Église sont indépendantes et autonomes dans leur propre domaine.
Gaudium Spes che tutte e due sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone.
Gaudium Spes précisait aussi que la communauté politique et l'Église étaient toutes les deux au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes personnes humaines. Et le Concordat de 84 invite en effet ces deux entités à s'engager au plein respect de ce principe d'indépendance sur la volonté de l'un et de l'autre dans leurs rapports et à la collaboration réciproque pour la promotion de l'homme et du bien du pays. Un autre point important du Concordat de 84, c'est la reconnaissance de la Conférence épiscopale italienne comme sujet pour collaborer, dans certains cas, avec les autorités compétentes de l'État et la Conférence épiscopale.
Compétente autorità dello Stato e la Conférence épiscopale.
Mais s'il existe cette reconnaissance réciproque, le débat sur la laïcité de l'Italie revient souvent. Faudrait-il, selon vous, Éminence, réactualiser certains points du Concordat ?
Non, pas du tout. L'Église réaffirme seulement les principes de son enseignement. Elle s'adresse aux catholiques et à tous les hommes de bonne volonté. Naturellement, il reste des points sur lesquels le Parlement, dans ses décisions, peut aussi prendre des orientations différentes. Mais cela ne signifie pas que nous avons besoin de nouveaux accords. La possibilité de s'entendre existe déjà. Ce qu'il faut, selon les cas, c'est la volonté de s'entendre.
Secondo me, questo sarà sempre una querella che...
D'après moi, le débat sur la laïcité existera toujours, en ressortant puis en se repacifiant. Il y a toujours des frontières un peu fluctuantes entre ce que demande l'Église et ce que reconnaît la société.
Ainsi, les sujets de tension reviennent de temps en temps entre Église et État sur des sujets de société, notamment le DICO, le Pax à l'italienne, très récemment, ou encore le référendum en 2005 sur la fécondation assistée. L'historien Pietro Scoppola revient sur la laïcité à l'italienne.
La laïcité à l'italienne, si vous voulez, c'est l'effet d'une synthèse entre la tradition française qui est présente dans notre culture certainement et la tradition anglo-saxonne qui a été découverte et valorisée par les études de droit constitutionnel. Une sentence de la Cour constitutionnelle a exactement défini la laïcité pas comme hostilité de l'État aux réalités religieuses mais comme existence d'une idéologie de l'État autonome, mais comme reconnaissance dans une situation de pluralisme de la réalité de la présence de différentes religions qui concourent dans la liberté à porter leur contribut à la formation du tissu éthique du pays. Et alors là, il y a une conception qui vous permet la collaboration, pas seulement avec les autres religions, mais aussi avec les positions laïques.
De quelle manière vous pensez que les rapports ont évolué entre l'État et l'Église depuis la signature du Concordat de 1984? Qu'est-ce qui a marqué ces quelques 20 années, un petit peu plus dans les rapports?
En Italie, il y a la nouveauté, il y a le fait historique très important sur lequel on n'a pas assez encore discuté peut-être, de la fin du parti d'inspiration catholique, de la démocratie chrétienne, a eu dans l'histoire italienne une importance bien plus profonde que la présence du Parti démocrate chrétien dans l'histoire française, de l'après-guerre. La démocratie chrétienne était le centre, la cernière du système politique italien. La fin de la démocratie chrétienne a créé pour l'Église un problème. Quelle est la tendance? La tendance que je vois, c'est colloquer l'Église sur un terrain de présence civile, je voudrais dire, de valeurs civiles. L'Église qui interprète les exigences de la convivance civile, de valeurs civiles, au nom de sa capacité d'exprimer les grandes valeurs, la tradition des droits naturels, etc. Et l'Église qui fait des batailles qui ne sont pas des batailles sur l'évangélisation, mais qui sont plutôt des questions de contenu politique, n'est-ce pas? Alors, il y a une substitution de l'Église au parti, une présence de l'Église sur le terrain politique, une présence directe de l'Église. Ceci avec des dangers très profonds, parce qu'il y a une image d'Église qui peut devenir, peut-être déformer l'image de l'Église. Une Église qui défende certains intérêts à certaines positions politiques. Et là, il y a la possibilité d'équivoque. Quelle est la réponse? La réponse, c'est une réaction pour retrouver les propres de l'Église, qui est l'annonce de l'Évangile, n'est-ce pas?
Merci au cardinal Aquile Silvestrini et aux historiens Pietro Scoppola et Pierre Milza pour leur contribution.